Et nous allons maintenant poser quelques définitions, puisque vous voyez là déjà, on a parlé évaluation, mesure, etc. Donc j'invite Jérémy Brémaud et Lionel Berton à me rejoindre pour nous assurer que nous parlons bien tous de la même chose. Donc là, on va prendre un petit peu de temps, une trentaine de minutes, pour vraiment poser les définitions. On a vu les genèses, les enjeux pour l'UNAPI. Rentrons un petit peu plus dans le détail. Jérémy Brémaud, donc vous êtes directeur associé de la SCOP, donc ESS, et l'IX, qui a accompagné l'expérimentation qui nous réunit aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez, juste en quelques mots, définir l'impact social et nous dire en quoi c'est important de le mesurer?
Alors, je vais essayer.
Une petite slide à l'appui.
Sur la question de ce qu'est l'impact social, on a une définition assez classique retenue dans le champ de l'économie sociale et solidaire qui va dire que l'impact social, c'est l'ensemble des inflexions qu'arrive à avoir une organisation, une association, un service auprès de l'ensemble de ses bénéficiaires et parties prenantes. Et donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire évoluer une situation donnée auprès des familles qu'on accompagne, auprès des personnes, voire auprès de la société en général. Du coup, quand on va parler de mesure de l'impact social, on va parler d'une méthodologie qui va nous permettre d'aller objectiver notre contribution à l'utilité sociale, à cette transformation qu'on essaye de mettre en œuvre. Et donc, nous, on aime beaucoup parler de l'évaluation ou de la mesure de l'impact social avec cette logique d'intention. Qu'est-ce qu'on essaye de produire? Vers quel type de société on a envie d'évoluer? Et qu'est-ce qu'on essaye de générer comme bien commun pour les personnes qu'on accompagne, que ce soit les familles, les personnes, la société, les parties prenantes, voire les politiques publiques? Et donc, ce qu'on va essayer de faire à travers une démarche d'évaluation d'impact social, c'est de voir dans quelle mesure ce rêve, cette intention qu'on essaie de générer, on arrive réellement à la mettre en œuvre et quel chemin il nous reste à parcourir pour pouvoir tendre vers cette situation idéale.
Finalement, ce sont des outils au service de l'horizon de transformation, quoi. C'est une forme de...
On a vraiment cette logique de transformation. C'est-à-dire que là, on le voit sur le schéma qui est juste à côté. On a cette question des intentions. Vers quoi on a envie de tendre? Qu'est-ce qu'on va réaliser pour pouvoir mettre en œuvre réellement ces dimensions? Qu'est-ce qu'on atteint comme résultat? Et à la fin, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Je vais prendre un exemple. On veut renforcer la capacité à agir des personnes en situation de handicap. Pour ça, on va faire tout un travail d'accompagnement à l'expression. On va mobiliser le facile à lire et à comprendre pour que la personne soit en capacité de bien identifier les sujets et les enjeux. On va mobiliser le S3A pour faciliter l'ensemble de la capacité de la personne à s'exprimer par tous les moyens les plus adaptés pour elle. On va travailler sur des accompagnements, de la mise en œuvre de parcours singuliers, personnalisés, pour être en capacité de l'aider à réaliser l'ensemble de ces choses. Et donc, ce qu'on va voir en termes de résultats, si est-ce que oui ou non, on a une personne qui a l'impression que ce qui a été mis en place correspond effectivement à ses appréciations ou à sa volonté initiale. Et en termes d'impact, ce qui va nous intéresser, c'est en quoi la personne a renforcé son pouvoir d'agir, sa capacité à évoluer, à prendre des décisions et à faire des choix de vie. Et on voit bien la question entre l'intention initiale dans laquelle on va toucher la question de l'émancipation, de l'autodétermination, et l'impact à la fin sur ce renforcement du pouvoir d'agir.
Donc on s'intéresse pas seulement aux activités, ce qui est fait, mais à ce que produisent ces activités. Merci beaucoup, ça me paraît très clair. Lionel, vous êtes directeur du pôle qualité et développement de l'UNAPI nationale. La notion d'impact social, comme le disait tout à l'heure Marilyn, est somme toute assez nouvelle pour le réseau. Elle croise plein d'autres démarches évaluatives. Donc est-ce que vous pouvez préciser ce que n'est pas une mesure d'impact social par rapport à toutes ces démarches?
Alors, ce que je vais faire en deux temps, je vais te dire, il y a déjà eu des démarches d'évaluation de l'impact qui ont eu lieu au sein de l'UNAPI, du réseau UNAPI, mais plus sur une approche économique. Je vais citer deux exemples. En 2017, on a réalisé une étude avec un cabinet spécialisé qui s'appelle Utopie sur quelle est la création de valeur de notre réseau. Pourquoi on a décidé de faire ce travail? Parce que souvent, les associations, les gestionnaires sont vus comme étant un coût pour la société, parce que c'est des finances publiques, etc. Mais c'est un coût pour la société, mais les associations créent aussi de l'emploi. Il y a des emplois directs. En 2017, l'étude montrait qu'il y avait dans l'ensemble du réseau UNAPI 78 820 salariés dans l'ensemble des associations. Mais ce qui est énorme, effectivement, c'est énorme. Et aujourd'hui, il y en aurait certainement plus, malgré la crise que l'on connaît actuellement. Mais avec les emplois indirects, les emplois induits par la chaîne de valeur, la chaîne des fournisseurs, on constate qu'il y a aussi d'autres emplois qui sont créés grâce à l'activité des associations et également tout ce qui est induit par la consommation des ménages, etc., etc. Donc, pour faire un résumé très court, hein, parce qu'il faudrait évidemment beaucoup plus de temps pour expliquer ça, en fait, ce que l'on constate, on n'y est pas encore, ce que l'on constate, c'est que dans le réseau UNAP, en gros, notre coefficient multiplicateur est à peu près de 2,1, c'est-à-dire pour 78 000 emplois directs, il y a en tout 165 000 emplois qui sont directement liés à l'activité des associations du réseau UNAP. Deuxième exemple, et du coup c'est la diapo suivante, il y a un travail remarquable également qui a été fait dans le cadre des associations de protection juridique, hein, dans le cadre d'un collectif dont l'UNAPI fait partie, et qui a visé à évaluer les impacts socio-économiques de la protection juridique des majeurs par les mandataires professionnels. Donc c'était en septembre 2001. Pour expliquer aussi assez simplement quel était l'objectif, l'idée c'est de dire est-ce que le coût des mesures de protection juridique, est-ce que les bénéfices engendrés par ces mesures de protection juridique dépassent le coût de la réalité de la protection juridique ? Donc un gros travail a été fait avec, là encore, un cabinet spécialisé qui s'appelle Citizing et qui a montré que les bénéfices étaient beaucoup plus importants que le coût des mesures. Et de mémoire, ça représentait à peu près, pour 1 euro de dépense, ça faisait 1,5 euro de bénéfices directs, et ce qui représentait sur l'ensemble des mesures de protection juridique plus d'un milliard d'euros d'économies grâce aux mesures de protection juridique. Voilà, donc c'est important qu'on précise ça, c'est-à-dire que le choix que l'on a fait dans le travail que l'on est en train de mener actuellement n'est pas sous l'angle économique, mais bien sous l'angle de la mesure de l'impact social. Et le point commun qu'il y a entre ces deux mesures, c'est qu'elles nécessitent quand même une expertise très pointue. Donc on est obligé de faire appel à des cabinets spécialisés quand on fait ce genre d'études, puisque ça nécessite effectivement une expertise qu'il n'y a pas dans notre association, ce n'est pas notre cœur de métier.
Quoi qu'il arrive, il vaut mieux se faire accompagner même sur une démarche d'impact social. Mais du coup, c'est pas du tout de l'enquête de satisfaction, c'est pas une démarche qualité, mais c'est complémentaire de ces démarches-là. Hein,
tout à fait. Donc les gestionnaires de structures connaissent effectivement les démarches d'évaluation, parce qu'il y a une obligation d'évaluation interne, externe, dans le secteur médico-social, hein, qui a été imposée par les pouvoirs publics. D'ailleurs, le référentiel est actuellement en cours de modification, en cours d'expérimentation par la HAS. Mais ce n'est pas le même objectif. L'objectif de l'évaluation, c'est de vérifier la conformité du fonctionnement des établissements au regard de la réglementation et également de vérifier la qualité des prestations et le niveau de satisfaction des prestations. Ça peut se faire également sous forme d'enquête de satisfaction auprès des personnes accompagnées.
Oui, mais ça ne dit rien des effets de ces prestations
non,
sur les personnes, leur famille.
Non, c'est une photographie, un instant T. Ça a une valeur qui est plus normative, qui vise effectivement à vérifier qu'on respecte bien la réglementation.
Charges. D'accord. Et Jérémy, concrètement, cette expérimentation, comment est-ce qu'elle s'est déployée sur les trois régions ?
Alors, on a suivi une méthode identique sur chacune des trois régions en traitant d'objets à chaque fois très différents. Donc, je laisserai là encore la primeur aux régions pour pouvoir présenter de manière un peu plus concrète les sujets et les résultats qui ont été obtenus. Mais on a suivi à chaque fois la même logique, le même déroulé. Et donc, c'était cet intérêt de rentrer dans l'appel à projet de la VIS pour voir si cette méthodologie, elle pouvait aller dans les différents contextes qui allaient être utilisés par la suite. Donc on a au préalable travaillé sur la question de la gouvernance. Qui va piloter, qui va décider sur la mise en œuvre du projet ? Donc ça, c'est une étape qui est essentielle, qui ne fait pas partie d'une étape d'évaluation d'impact social à proprement parler, dans la mesure où c'est transversal à tout type de gestion de projet. Mais on voit bien les enjeux, en tout cas d'articulation, sur qui va arbitrer, parce que c'est une étape qui est longue, qui peut être coûteuse, qui va nécessiter des moyens lien et donc il y a besoin de la connecter aux enjeux stratégiques de l'association et donc il faut pouvoir arbitrer sur cette question de gouvernance. Et ensuite, on a sept étapes méthodologiques plus traditionnelles, on va dire, un volet dans lequel on va s'accorder sur le cadre de l'action. Qu'est-ce qui nous intéresse ? Vous êtes dans des associations qui sont extrêmement riches, sur lesquelles la diversité des sujets qu'on peut aborder autour de l'impact social pourrait amener à avoir une équipe de 15 personnes qui passent leur temps à mesurer, à évaluer ce qui se passe. Impossible à tenir et pas forcément très pertinent. Et donc, il faut réussir à s'accorder sur quel est le sujet le plus important pour nous au regard de nos enjeux, au regard de la situation et du contexte dans lequel on vit aujourd'hui. Donc ça, c'est l'étape de cadrage et elle est essentielle parce qu'il s'agit de s'accorder sur le calendrier, le moyen, les ressources, où est-ce qu'on veut aller ensemble. Le deuxième sujet, c'est qu'une fois qu'on a la thématique et le cadre, il faut s'accorder sur quel est l'angle d'attaque autour du sujet qu'on veut traiter.
Qu'on appelle la question évaluative.
Exactement.
La fameuse.
C'est la fameuse question évaluative dans laquelle, là c'est un parti pris qu'on a chez nous en interne, mais on va s'obliger à avoir une question centrale dans lequel on va pouvoir décliner 2-3 sous-questions par la suite, mais on va essayer de garder cette question centrale qui fait l'ossature de toute l'analyse qu'on veut porter derrière. Et donc, cette question, elle est essentielle, elle nécessite quelques codes pour être bien posée, mais tout ça, vous le reverrez, on en reparlera dans la journée. Une fois qu'on a la question, on va poser nos intentions. Quelles sont nos hypothèses d'impact ? Qu'est-ce qu'on pense être en capacité de générer face au problème, à la thématique et à l'angle d'attaque qu'on essaye d'amener ? Donc ça, c'est les hypothèses, et il s'agit d'être assez réaliste sur qu'est-ce qu'on essaie de faire et où on veut aller, pour pouvoir ensuite aller l'objectiver. Donc ce n'est pas une étape dans laquelle on va être prétentieux, dans laquelle on va se dire c'est super, on change tout, tout, tout. C'est bien de se dire, on pense qu'on a des effets sur telle dimension. On pense qu'on va pouvoir renforcer le pouvoir d'agir de la personne. On pense qu'en donnant de l'information aux parents, on les rassure sur la situation de leur enfant. On pense que le travail de médiation qu'on fait auprès des familles va les aider à mieux comprendre les besoins et les enjeux que rencontrent leurs proches au quotidien, etc. Et donc on liste les différents effets qu'on essaye de générer, pour pouvoir ensuite aller sur la méthode à proprement parler, en se disant bah, très bien, si on veut aller regarder en quoi on rassure les familles, quel est l'indicateur qui va être le plus intéressant pour pouvoir rendre compte de cette dimension-là ? Est-ce que c'est le pourcentage de familles qui viennent aux réunions d'information ? Ou est-ce que c'est le pourcentage des familles qui viennent aux réunions d'information qui ont appris des choses qu'elles ne connaissaient pas ? Ou est-ce que c'est les interactions sociales qui ont été développées grâce à ces temps de réunion qui ont permis à des personnes de se sentir moins seules dans leur situation ? Et donc on voit bien qu'à travers un effet, on peut vite avoir 3, 4, 5 indicateurs différents et il va s'agir d'aller construire la méthodologie pour qu'elle soit organisée, que ce soit le plus fluide possible, qu'on évite d'avoir 25 questionnaires qui vont partir à des temps différents auprès des mêmes personnes et puis surtout que ce soit le plus acceptable possible pour l'association, qu'on ne soit pas dans des moyens complètement démesurés par rapport à ce qu'on veut mesurer. Donc cette méthodologie, elle vise vraiment à essayer de rationaliser au maximum. Et c'est l'étape dans laquelle on va devoir faire des sacrifices en se disant « Ah là, ce sujet, il nous intéresse énormément, mais objectivement, il passe après les autres. Et donc, celui-là, on le met en recul au regard des moyens dont on dispose. »
C'est aussi renoncer à tout évaluer à ce moment-là.
Et c'est la période la plus
frustrante. Donc, un indicateur, c'est l'information grâce à laquelle on va vérifier que l'hypothèse qu'on émet est confirmée ou pas.
Exactement. Et c'est pour ça que dans les représentations, quand on parle de mesures, on a tendance à enfermer parfois dans des approches très quantitatives. Quel est le taux, le nombre, etc. En réalité, dans les travaux qu'on a faits, on a pris beaucoup d'approches qualitatives. On a été prendre des exemples de comment, pour les familles, telle et telle situation ont été vécues. Comment des personnes en situation de handicap ont ressenti telle étape de vie ou telle situation. Pourquoi le salarié d'ESAT a exprimé telle dimension à un tel moment. Et donc, on vient objectiver des dimensions par du quantitatif. Ça parle beaucoup en externe, c'est utile, ça facilite les représentations. Mais on vient l'alimenter, le nourrir par du qualitatif, qui vient expliquer, nuancer, qualifier un ensemble de dimensions. Et puis on pourrait même aller chercher parfois des approches socio-économiques dans lesquelles on vient regarder des coûts évités et savoir en quoi ça nourrit l'ensemble de cette dimension. Et donc tout ça, ça nous amène dans la phase de collecte, qui peut être une phase qui parfois va ressembler à des enquêtes d'évaluation que vous pouvez faire en interne. On va envoyer des questionnaires, on va faire des entretiens semi-directifs, on va faire des focus groups, on va pouvoir travailler sur différentes approches. La grande différence, elle est sur la manière de poser la question, sur le sujet qu'on va regarder. Mais au final, si on regarde de loin, on voit 30, 40 questions qui se succèdent autour de sujets et d'approches différentes. Une fois qu'on a tout ça, on rentre dans l'analyse. On vient digérer l'ensemble des informations qu'on a collectées. Et c'est là où le travail de méthodologie qu'on a fait en avant, qui nous permet de dire, pour pouvoir regarder si les familles sont rassurées dans leur quotidien, on va regarder tel objet, tel indicateur, etc. On va vite se dire, très bien, dans les questionnaires aux familles, on sait que la question 4, la question 8 relaient de ce niveau-là. On sait que dans les entretiens semi-directifs qu'on a pu faire, c'est le sujet 2 et le sujet 3 qu'on a abordé. On sait que dans tel volet focus group sur ce territoire, c'est tel sujet qui a été abordé à tel moment. On va regrouper l'ensemble des informations par thématique qui va permettre d'aller faire une analyse transversale qui mobilise les différents sujets. Et une fois qu'on a ces dimensions, on va pouvoir rentrer dans la question de la valorisation. Et donc, il s'agit bien de terminer une évaluation d'impact social par le partage des apprentissages, qu'ils soient positifs, nuancés, voire même parfois négatifs, en se disant « mais on n'a pas atteint notre objectif, qu'est-ce qu'il faut qu'on remette en cause dans nos fonctionnements, dans nos modes de contractualisation avec les partenaires publics, dans notre manière de faire notre action quotidienne, dans nos postures, pour réussir à atteindre ce niveau-là demain ?» Et donc, on a bien un sujet d'appropriation collective, dans lequel la question de en quoi les administrateurs, les professionnels, nos partenaires externes sont acteurs de la bonne réussite de notre action collective. Et donc, on voit bien que dans l'évaluation d'impact social, ce n'est pas la question de qui est le meilleur, mais de comment, collectivement, on arrive à aller vers cette logique de transformation et d'amélioration de la société.
Donc, c'est vrai que la collecte et l'analyse, ça ne suffit pas. Il faut faire quelque chose de ces résultats. Et c'est très courageux, quand même, une démarche comme ça, parce que c'est prendre le risque aussi de faire remonter des informations qui ne nous plaisent pas ou qu'on n'a pas forcément envie de regarder. Donc, vraiment, moi, je trouve ça très courageux. Je vous remercie, Jérémy, pour ces éléments méthodaux. On y reviendra probablement. Et puis, on aura on va illustrer tout ça à travers la prochaine table ronde. Mais Lionel, un dernier mot quand même dans un contexte qui est particulièrement marqué là par les urgences. On sait que l'attractivité des métiers pose problème, qu'il y a 1000 urgences à régler, que les politiques publiques se transforment, que voilà, ça peut paraître complètement contre-intuitif de justement prendre le temps de marquer une pause et de lever la tête du guidon, entre guillemets, pour mener une étude d'impact social. Pourquoi c'est justement très pertinent ?
Effectivement, vous vivez une période effectivement qui est compliquée, hein, avec la pénurie des professionnels, etc. Mais dans la logique des politiques publiques du handicap actuelle et de la transformation de l'offre, il me semble en tout cas que c'est vraiment très très pertinent. Pourquoi ? Parce que les critères qui sont définis par les pouvoirs publics de la réussite de la transformation de l'offre sont des critères quantitatifs. Jérémy en a parlé. Nous, on est plus là sur une approche qualitative. Les critères, vous les connaissez, ils ont été définis au niveau du ministère et ils s'appliquent aux agences régionales de santé. Donc ce sont des critères qui consistent à dire il faut transformer tant de places d'établissements en services. Il faut diminuer chaque année le nombre d'amendements cretons. Il faut davantage de scolarisation. Mais avec des critères de résultats, des critères de pourcentage. Chaque année, il faut tant de pourcentage de réussite. Et ces critères-là, ils sont effectivement, on peut les évaluer parce qu'ils sont quantitatifs, mais ce qu'on ne mesure pas forcément bien, c'est quelles sont les conséquences, quels sont les impacts sur les personnes directement concernées, sur les personnes accompagnées, sur les familles. Transformer des places d'établissement en service, quel impact ça a sur la famille ? Est-ce que le fait d'avoir effectivement une logique de service, est-ce que ça ne va pas davantage faire porter, j'allais dire, le poids de l'accompagnement, de la répartition de cette logique de service au niveau des familles. Donc ça, on ne le sait pas vraiment. Et effectivement, c'est important de le mesurer. Je vais prendre un autre exemple qu'on aimerait éviter, pour être, à mon avis, qui serait très significatif. Si on parle des ESAT, il y a une réforme actuellement en cours. Si on décide à un moment donné que le critère de résultat d'un ESAT, c'est le pourcentage de sortie, c'est-à-dire le pourcentage de personnes, de travailleurs handicapés qui va aller en milieu ordinaire. On va fixer ce pourcentage à 5, 10, 15, je ne sais pas. On va éviter que le pourcentage soit élevé. Le risque, je crois qu'on l'a tous bien compris, c'est que la sélection se fasse à l'entrée. Plus on va recruter des personnes qui ont en capacité d'aller vers le milieu ordinaire de travail, effectivement, plus on va pouvoir atteindre le résultat. Donc les effets délétères de cette logique des politiques publiques sont quand même assez importantes et voire dangereux. Et donc la mesure de l'impact social dans ce cadre-là permet à l'association de définir qu'est-ce qu'elle cherche à évaluer, quels sont les effets, les impacts que l'on souhaite vis-à-vis des familles, des personnes, etc. Et donc, ça permet à l'association de prendre la main et de ne pas simplement répondre à des injonctions qui sont uniquement évaluées en termes de résultats quantitatifs. Et c'est important pour l'association parce que ça permet de vraiment re-questionner l'utilité sociale de l'association. Une association a un projet politique et la mesure d'impact social permet effectivement d'évaluer la réalité de résultats de l'association et pas simplement dans une logique d'opérateur.
Merci Lionel. Ça permet, si on rêve, ça vous donne aussi des arguments nouveaux pour infléchir sur ces fameuses politiques publiques.
Ah bah, c'est exactement
c'est
ça.
C'est-à-dire leur montrer les effets délétères de leur réforme.
Ça a effectivement, des leviers pour nous, pour effectivement influencer les politiques publiques dans une dynamique de stratégie d'influence et de plaidoyer. Lors du Web Congrès la semaine dernière, la présidente du mouvement associatif l'expliquait très bien, d'ailleurs, c'est pour ceux qui l'ont suivi. Elle expliquait qu'on cherche à imposer aux associations de façon générale des critères qui sont ceux de l'entreprise. Ben, une association, le secteur de l'économie sociale, on n'est pas des entreprises et on a une utilité sociale qui ne se mesure pas uniquement au travers de critères quantitatifs.
Merci beaucoup à tous les deux. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose, puisqu'on a un petit peu de temps, encore 4 minutes, si ça, un point sur lequel vous voulez insister.
Oui, moi je vais insister juste sur la question de la valorisation. Derrière, effectivement, la question de... On va ressortir beaucoup d'informations d'une évaluation d'impact social. Au-delà des intentions, on arrive toujours à repérer des choses à côté. Et donc la question de... comment on travaille le discours en fonction de à qui on s'adresse, quel type de message on veut faire passer. C'est un sujet qui est extrêmement important. En général, on l'aborde déjà dans le cadre. Cette démarche, on l'a fait pour qui? Est-ce qu'elle est plutôt à visée interne? Est-ce qu'elle est plutôt à visée externe? Est-ce qu'on est dans une logique d'amélioration? Est-ce qu'on est dans une logique de justification, etc.? Mais on voit bien, quand on arrive en phase de valorisation, on se retrouve avec une matière dans laquelle il y a vraiment un enjeu. Et M. Moreau a sûrement parlé tout à l'heure, parce qu'il avait insisté aussi dans ces dimensions-là. Et je rejoignais complètement sur le fait que les messages à aborder, ils méritent d'être travaillés, structurés, de s'appuyer sur les chiffres à l'appui. Et puis, il y a un vrai enjeu de transparence. Accepter les limites qu'on a pu voir dans nos approches, dans nos fonctionnements à travers une évaluation d'impact social, c'est aussi ce qui va consolider et renforcer les messages positifs qu'on a à valoriser derrière. Parce qu'on fait un jeu de transparence avec les partenaires et donc on accepte les sujets sur lesquels il faut s'améliorer. Et quand on leur dit qu'ici, on est bon, mais il n'y a pas de sujet de remise en cause ou en question dans ces dimensions. Donc c'est une étape qui est vraiment stratégique et qui mérite à la fois d'être un peu anticipée et d'être travaillée pour en faire soit des événements comme on est en train de le faire aujourd'hui, soit des livrables, des outils, des temps de tête-à-tête avec des institutionnels aussi pour pouvoir renforcer ces dimensions. Et du coup, ça me fait une transition tout trouvé, parce qu'il y a un prénom qui a été juste mis en filigrane tout à l'heure, qui n'a pas été prononcé, c'est celui de Johanna, qui a fait un travail assez intéressant sur la réappropriation collective autour d'un ensemble de démarches et décisions qui ont été prises et qui ont pu refaciliter dans certaines associations le fait de réenclencher, parce qu'on a parlé de la situation sanitaire qu'on a connue, donc ça a compliqué les participations en copile, etc. Et donc la capacité à repasser par de l'écrit, de la facilitation, a ainsi été un levier, à mon avis, facilitant pour que certaines associations ne décrochent pas dans la démarche. Donc c'était juste pour la remercier pour ce travail de fourmi ou un peu moins visible qui a pu être fait aussi.